Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les tractations vont bon train après les élections européennes pour trouver un président de la Commission, l'exécutif de l'UE, l'occasion de tirer d'autres enseignements d'un scrutin qui n'a lieu que tous les 5 ans. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Frédéric.
Vous nous parlez des jeunes électeurs, on les disait non politisés, abstentionnistes, tentés par les extrêmes, mais on les avait vus aussi fouler le pavé et sécher l'école pour aller demander à leurs dirigeants de faire plus pour le climat. Et dimanche dernier, ils ont en partie créé la surprise en allant voter pour élire leurs députés européens, Eve.
Et oui, c'est un changement par rapport à 2014 et les dernières élections. En France, tout particulièrement, ils ont été beaucoup plus nombreux à se déplacer dans les urnes, plus 13 points de participation chez les moins de 35. Bon, la majorité d'entre eux est quand même restée à la maison, 60% a choisi l'abstention.
Plus nombreux à voter donc, mais différemment.
Oui, même si les enseignements sont plus variés qu'il n'y paraît. En France et en Allemagne, on parle d'effet Greta Thunberg et de vague verte pour décrire ce vote de la jeunesse qui a choisi majoritairement les partis verts dans les deux pays. Il y a 5 ans, c'était le Front National qui avait la faveur de la jeunesse en France avec 30% des voix. Le bulletin vert n'était à l'époque qu'à la 4e place. En Allemagne, cette année, la mobilisation pour le climat dans les urnes a touché un jeune sur 3 et en France, pratiquement pareil, hein, 25% des 18-24 et 28% chez les 25-34. Et dans ces deux pays, les verts sont devenus la première force politique chez les jeunes.
Des résultats qui font suite à une mobilisation d'un nouveau genre, hein, aussi bien sur les écrans que dans la vraie vie.
Et c'est l'enseignement de cette nouvelle génération qui s'exprime tous azimuts dans la rue avec les marches pour le climat, vous l'avez dit, mais aussi sur les écrans où la campagne battait son plein, sur Instagram, par exemple, le célèbre réseau social. Toute la journée, les influenceurs ont répété à leurs abonnés d'aller voter. En Allemagne, la veille du scrutin, 90 youtubeurs ont appelé également à voter pour les partis prenant les problèmes climatiques au sérieux. Et également à faire barrage à l'AFD, le parti d'extrême droite, une mobilisation qui s'est donc déplacée dans les urnes dimanche pour ces deux pays.
Une campagne appuyée également sur les réseaux sociaux du côté de la Belgique.
Oui, notamment par le parti d'extrême droite flamande, le Vlaams Belang, qui a su séduire les moins de 30 ans. Ce vote était l'occasion pour 800 000 jeunes belges de faire leur premier pas d'électeur. Rappelons que le vote est obligatoire dans ce pays. Et ils ont donc choisi en Flandre plutôt l'extrême droite, mais aussi en Wallonie des partis plutôt émergents cette fois-ci, dont le parti vert.
Et alors, plus surprenant, en Suède, il n'y a pas eu d'effet Thunberg.
Et non. Et c'est étonnant, en effet, étant donné que tout est parti de là. Les jeunes Suédois ont plutôt voté à droite, dans la lignée de leur dernier vote au niveau national, c'était en septembre dernier. La bipolarisation traditionnelle, hein, droite-gauche, reste de mise chez les 18-30 ans en Suède. Les Verts ont même reculé sur cette classe d'âge, même si 90% des jeunes sondés continuent de faire de l'environnement une priorité. Chez leurs voisins finlandais, cette fois-ci, par contre, le parti écolo fait une percée historique et prend la 2e place du scrutin, tous âges confondus.
Et puis on part au sud de l'Europe où là les jeunes ont privilégié la gauche.
Oui, notamment en Espagne, le PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, a capté dimanche un électorat jeune qui s'était déplacé ces dernières années vers les partis émergents proches de la société civile comme Podemos, Ciudadanos ou encore Vox. Aucune vague verte à l'horizon et encore moins au Portugal ou en Italie.
Et on terminera par ce regain de participation de la jeunesse qui ne s'est pas fait dans tous les pays, Eve.
Non, comme en Pologne par exemple, les jeunes ont moins voté que la moyenne, privilégiant le parti au pouvoir Droit et Justice, surtout chez les hommes de moins de 30 ans, devant la coalition européenne et la confédération nationaliste. Rien n'est joué donc du côté de la jeunesse européenne et on observera ce qui se passera dans les prochaines années.
Merci Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
En France, on ne l'appelle plus police de proximité, mais depuis un an, le ministère de l'Intérieur a lancé son projet de police de sécurité du quotidien. Une nouvelle appellation qui en dit long sur l'importance du contact avec la population. Quant à la mairie de Paris, elle a déjà annoncé son projet de police municipale non armée. C'est donc dans ce contexte que 3 policiers municipaux du Raincy, en banlieue parisienne, sont allés plusieurs mois en stage à Finchley-Barnet, au nord de Londres, pour voir comment travaillent les bobines hobbies, non armés comme on sait, et échanger si possible des méthodes de travail. Reportage signé Marie Billon.
Leur casquette police municipale sur la tête, les trois agents du Rhin 6 se sont fait remarquer à Londres. Pourtant, à part l'uniforme, ils ont tout fait comme les bobbies. Les patrouilles à pied, mais aussi en véhicule, tel ce matin, quand ils ont entendu retentir une alarme alors qu'ils venaient de se garer. Sandy Durieux est chef de brigade.
En fait, ça provenait d'une banque. Et la banque, en fait, était en travaux, donc c'était une alarme intempestive. On aurait peut-être été un peu plus stressés, nous, sur le moment, c'est une alarme de banque. Non, eux, ils sont allés vers la banque et ils se sont assurés qu'à l'intérieur de la banque, c'était bien des travaux et pas un cambriolage ou un vol à main armée.
Vous auriez fait quoi, par exemple ?
Nous, à partir du moment où c'est une banque, je pense qu'on n'aurait pas été forcément tout de suite sur la banque. On aurait plutôt reculé, visionné l'environnement et après, en fonction des éléments, soit on y serait allé, soit on aurait attendu du renfort.
Première différence donc, l'attitude. Le British serait relax, disent les policiers français, mais ça n'enlève rien à leur autorité, précise Corinne Limery, la chef de service de la police municipale du Rhin 6.
On a pu voir que c'était une police qui se mêlait à la population. On s'adresse à lui comme un citoyen lambda, tout en gardant néanmoins son autorité et tout en se faisant respecter. Voilà, c'est ce qui restera.
Après une journée de patrouille, les trois policiers français et les deux bobbies britanniques font un peu un bilan de leur rencontre dans la cour du commissariat. Et justement, ils continuent cette conversation sur la vision de la police, très différente des deux côtés de la Manche. Martin McGall est sergent détective à Finchley-Barnett et Toby Wilson est un bobby depuis 8 ans.
Il faut rester un peu en distance en France parce qu'on est armé. Ici, à Londres, normalement, on n'est pas armé. Et c'est plus amicalement.
Nous sommes plus approchables parce que nous ne sommes pas armés. Les gens ont davantage confiance en la police locale ici en Grande-Bretagne. J'ai remarqué que les Français sont un peu plus abrupts avec le public. Je pense que les policiers français ont droit à plus de respect parce qu'ils sont armés. Les gens craignent plus la police française que la police britannique. Ils voient bien que tout ce qu'on a, c'est un taser, du gaz ou un bâton. Ils se sentent libres de faire plus de choses devant nous.
L'arme, pour moi, n'a jamais posé de soucis dans le contact avec la population parce qu'en fait, on la porte, mais on l'oublie aussi, l'arme. On l'a qu'en cas de nécessité absolue. Donc nous, on comprend leur positionnement, mais pour moi, ça reste quand même indispensable à mon travail du quotidien.
Il n'y a pas que l'arme qui fait du bobby un être plus approchable que le policier continental. Ici, on fait de la police de proximité. Même si le nombre d'agents a diminué à cause des coupes budgétaires, ils sont encore très visibles. C'est de la police de proximité, mais c'est aussi de la police par consentement. Ah, voilà un mot que les policiers français n'avaient pas entendu. Sandy Durieux, la chef de brigade, et son collègue, l'officier Blanqui, ont été touchés par la même chose.
Leur travail dans les écoles. Et c'est vrai que le fait que les enfants, dès le début, aient un contact privilégié avec les forces de police, ça évite que par la suite, il y ait une méfiance. Alors ce sera peut-être pas transposable en l'état, mais il faut travailler là-dessus.
Moi je pense que ça aide déjà l'image. Donc quand je pense le petit va voir un policier, donc ça sera plus de la prévention. Après il aura peut-être plus confiance et il se confiera au niveau du policier.
C'est bientôt la fin de la journée et bientôt la fin du séjour. Martin Magal est plutôt content de l'échange de méthodes qui a permis cette immersion des policiers français dans la vie du bobby.
Je pense que la manière d'assurer le maintien de l'ordre des deux côtés de la Manche est interchangeable, très similaire. La seule différence, c'est le port d'armes.
Une autre remarque peut-être pour Sandy qui souligne la différence organisationnelle. En France, il y a la police nationale et la police municipale. En Grande-Bretagne, il y a les branches régionales, comme la police métropolitaine de Londres par exemple, mais la différence est moins grande.
Voilà, on a vu beaucoup de choses qui seraient géniales en France, mais pas à notre niveau de police municipale, mais au niveau de la police nationale. Leur système de police technique et scientifique dans les cellules, ils ont tout sur place. La possibilité en fait par empreinte d'avoir immédiatement le visage de la personne qui correspond aux empreintes. Voilà, c'est des choses, même leurs cellules. En fait, ils ont des cellules qui sont aménagées en fonction de l'état psychologique de la personne. Si la personne n'est pas bien, on va la mettre dans une cellule où il y a beaucoup plus de lumière. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a vues qui sont différentes et à mon avis très intéressantes.
L'échange est dans les deux sens et les bobbies doivent aussi aller traîner leurs bottes au Rhin 6.
Et les bons exemples viennent parfois de loin. Ainsi, l'ex-république soviétique de Géorgie est aujourd'hui mise en avant comme un très bon exemple par le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe. Nouvelle pratique dans les auditions, nouvelles conditions de garde à vue. Tout va mieux à Tbilissi et ailleurs dans le pays, comme nous l'explique notre correspondant Régis Jantet.
Dans son rapport annuel, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe parle de la Géorgie comme d'un exemple positif qui a, je cite, « remarquablement réussi à changer ses pratiques policières ». On note la baisse du nombre de mauvais traitements infligés lors des gardes à vue, par exemple, quelques dizaines de cas par an, tout au plus. Les organes prévenant les incidents fâcheux apparaissent peu à peu, comme le département des droits de l'homme créé en janvier 2018 au sein du ministère de l'Intérieur. Les cellules de détention provisoire des commissariats de police ont pour beaucoup été rénovés, tandis que des médecins doivent désormais systématiquement informer le parquet général en cas de constat de blessure sur le corps d'un prévenu. Tout cela est le résultat d'un long processus marqué par des développements démocratiques certains dans cette ancienne république soviétique. Cependant, les défenseurs des droits de l'homme géorgiens pointent encore des dysfonctionnements. Absence de caméras filmant les entretiens lors des détentions provisoires, défaut d'information des prévenus quant à leurs droits après qu'ils aient été arrêtés, absence d'enquête en cas de mauvais traitement de la part de la police, ou encore interrogatoire visant davantage à obtenir des preuves que des informations fiables. Mais que de chemin parcouru depuis 1991 et l'indépendance du pays, où les rudes batailles politiques ont conduit les pouvoirs qui se sont succédés à peu changer la culture policière d'un État né, d'un immense État policier, l'Union soviétique.
Le métier d'agriculteur séduit en Italie. 21% de nouveaux arrivants en plus dans la profession en moins de 10 ans, nous disent les statistiques. À l'occasion des élections européennes, leurs représentants syndicaux ont tenu à souligner l'importance des fonds européens dans la transition à mener. Une transition qui est aussi technologique. Exemple, dans le sud-est de la Sicile, non loin de Raguse, l'éleveur Emanuele Nobile est éleveur de vaches limousines. On le surnomme désormais le Big Brother des champs, car c'est grâce aux nouvelles technologies qu'il a pu améliorer la qualité de son travail. Cécile Debarge l'a rencontré.
Pour retrouver son troupeau de 80 bêtes, dont 40 vaches limousines, Emmanuel Enobile a deux choses à faire. D'abord, sortir son tracteur du garage. Ensuite, regarder sur son téléphone portable où se trouvent les bêtes.
Alors là, ça nous dit qu'à midi, les vaches étaient sur ce bout de terrain-là. Ça, c'est l'exemple d'un pré naturel. Il n'y a pas de barbelés. Mais si elles sortent de là, je reçois un message.
Le tracteur s'engage dans de petits chemins qui serpentent à travers une végétation sèche délimitée par de bas murets de pierres blanches typiques de la région. À l'ombre des caroubiers, une partie du troupeau se repose.
Tu vois ce collier vert autour du cou ? Eh bien, c'est le géolocalisateur.
Deux bêtes portent des colliers de plastique vert équipés de capteurs reliés à un satellite. C'est comme ça que l'éleveur peut ensuite retrouver tout le troupeau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit l'endroit où il se trouve.
La géolocalisation, ce sont les cloches d'aujourd'hui, ces fameuses cloches qu'on entendait à travers les campagnes. Moi, je les garde parce que c'est un bruit que j'aime bien. Mais en réalité, si on utilise la géolocalisation, elles ne servent plus à rien.
À 33 ans, Emanuele Nobile est un éleveur ultra connecté. En plus des colliers de géolocalisation, il utilise un dispositif qui surveille les périodes d'accouplement de ses taureaux et un autre, les mises bas des vaches.
J'ai vu la pub d'un des représentants et ce qui m'a d'abord intéressé, c'est le dispositif pour surveiller la mise bas des vaches parce que la naissance d'un veau, c'est le moment le plus important pour un éleveur. Et aujourd'hui, j'utilise trois dispositifs pour surveiller mon troupeau, ce qui m'a valu le surnom de Big Brother des prés parce que quoi que fassent mes bêtes, ça arrive sur mon téléphone.
Mais comment deviner 2 heures avant qu'une vache est sur le point de mettre bas ? L'inventeur du dispositif a en réalité observé longuement les animaux avant de remarquer une spécificité.
Il a observé qu'avant de mettre bas, la vache faisait des mouvements avec sa queue et donc il a inventé un dispositif qui puisse enregistrer ces mouvements grâce à un algorithme et dès que le mouvement est reconnu, toi tu reçois une notification qui fait mouh et alors tu comprends que le veau va bientôt naître.
Grâce à ces technologies, Emanuele Nobile peut aussi stocker toutes les informations recueillies par ses dispositifs et créer un fichier ultra complet de son troupeau.
Alors là, ça me lit toute sa fiche. Là, par exemple, c'est la première fois que la vache a eu ses chaleurs. Puis ensuite, au mois de mars, et puis 10 jours après de nouveau. J'ai dû la soigner, cette vache. Mais au final, le 29 mars, elle est en gestation. Regarde la vache suivante. On peut regarder quand elle a mis bas, comment ça s'est passé.
Toutes ces données lui permettent aussi de dégager de grandes tendances dans son troupeau et de gagner du temps et de l'argent.
Disons qu'en sachant à quand remonte la conception, quand a lieu la mise bas, ça me donne des indications pour organiser au mieux mon travail et ma journée. Avant, je passais au moins 4 heures par jour avec les vaches. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de 2 heures parce que je n'ai plus besoin de les surveiller. Et puis, tu évites aussi que la vache ne perde du temps par rapport à son cycle de reproduction annuel. Si elle a des problèmes, je fais tout de suite intervenir le vétérinaire.
Pour acquérir ces dispositifs, il faut compter 300 euros pour le dispositif de géolocalisation, 400 euros pour celui qui surveille la mise bas des vaches et 2000 euros pour celui qui contrôle l'accouplement des taureaux. Lorsque l'éleveur de 33 ans s'est lancé seul en 2004, reprenant une activité que ses parents avaient presque abandonnée, c'est grâce aux fonds européens qu'il avait d'abord acheté des machines agricoles puis construit une étable pour les veaux. Cette fois, c'est avec ses fonds personnels qu'il a investi. Sans regret, car toutes les données qu'il a désormais lui permettent de viser un autre objectif, la meilleure exploitation des terrains où les vaches vont brouter.
L'objectif maintenant, c'est d'exploiter les pâturages de manière sélective, éviter que le terrain ne devienne trop sec et que l'animal ne l'assimile plus. Donc ça veut dire essayer de faire des micro-pâturages plus petits dans lesquels le troupeau va pour un laps de temps limité et comme ça, ils finissent un pâturage et ensuite passent au suivant, ce qui permet d'éviter qu'ils ne piétinent trop les herbes et qu'ils mangent tout sans rien laisser ensuite.
Petit à petit, ces nouvelles technologies se répandent en Italie. Si Emanuele a été le premier dans le pays à tester le dispositif pour surveiller l'accouplement des taureaux, il a depuis été suivi par 4 autres agriculteurs.
Difficile d'imaginer qu'à la place d'Istanbul, mégapole de 16 millions d'habitants, on trouvait il y a un siècle une vaste forêt. De cette époque pas si lointaine, il reste aujourd'hui des pavillons de chasse, de vastes demeures dont le secret est très bien gardé. Visite avec notre correspondante Anne Andlauer.
Au détour d'un rond-point, à 2 pas d'un gratte-ciel, au bord d'une voie rapide. Les pavillons de chasse d'Istanbul surgissent en des endroits parfaitement incongrus. C'est oublier qu'à une époque somme toute pas si lointaine, il y a un peu plus d'un siècle, la mégapole était encore une capitale d'empire, entourée de forêts pour le plaisir de ses sultans qui aimaient y chasser. En turc, on appelle ces pavillons les kasır. Ceux qui ont survécu sont très bien conservés, à tel point que si l'on parvient à ignorer le rond-point, le gratte-ciel et la voie rapide, on se téléporte sans mal en pleine forêt ottomane. Les Stambouliotes les connaissent peu, pourtant ces pavillons se visitent et sont dotés d'un parc très bien entretenu. Ce qui est, là encore, mais pour d'autres raisons, une incongruité dans une ville en manque d'espace vert. Les 2 pavillons de Maslak, situés dans le quartier des affaires, trônent dans un écrin de verdure de 170 000 mètres carrés. Le plus ancien des pavillons a été construit au début du 19e siècle, sous le règne du sultan Mahmoud II. On ne connaît pas son architecte, ni ceux des autres bâtiments venus se rajouter, et qui ont tout du palais miniature, avec salle de réception au lustre de cristal, hammam et serre botanique. Autre relais de chasse, les pavillons dits des tilleuls, qui doivent leur nom aux arbres du jardin. Les pavillons visibles aujourd'hui datent du milieu du 19e siècle. Ils ont été construits à la demande du sultan Abdülmecid Ier par Nigos Balyan, membre d'une célèbre famille arménienne d'architectes impériaux. C'est dans ce pavillon que le sultan reçut en 1846 le poète français Alphonse de Lamartine, qui écrivit à son sujet « Nous pourrions être dans une forêt en Suisse, sur des domaines soigneusement entretenus par un fermier. Nous entendons l'eau rouler sur des cailloux, des oiseaux gazouillant dans les feuilles. » Certains sultans se réfugiaient régulièrement dans ces pavillons de chasse, perçus comme des lieux de détente, un peu comme le font aujourd'hui les rares Stambouliotes qui connaissent ces endroits.
Action d'Europe était réalisée aujourd'hui par Françoise Grelot avec le soutien de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast.